Bonjour, je m'appelle Irène. J'ai un garçon qui a 14 ans. Quand il était petit, il a dénoncé son père pour des viols et j'ai porté plainte. Ma plainte a été classée sans suite. La justice m'a accusée de manipuler et de mentir. La justice n'a pas voulu croire quand mon fils leur a raconté. Et à partir de là, j'ai compris qu'il fallait absolument que les Français et les Françaises soient informés et puissent faire de la prévention. Parce que quand notre enfant est victime, malheureusement, c'est déjà trop tard pour le protéger. Et les violences sexuelles sont des choses qui sont encore abstraites et inconcevables dans l'esprit des personnes saines. Et c'est pour cela que les agresseurs sont souvent impunis et invisibles. Aujourd'hui, parler d'eux, c'est important. Et pour parler d'eux, aujourd'hui, on doit parler de nos enfants qui sont victimes, ne pas avoir honte. Et même si la justice ne fait pas bien son travail, dénoncer le travail justement de la justice qui fait vivre l'enfer aux parents qui croient à leurs enfants. Je sais que c'est difficile d'accéder, en fait, de se visualiser que ce genre de choses est possible et banal. C'est très difficile. Et pourtant, c'est une réalité. Et il faut allumer la lumière sur ces monstres. Parce que, c'est ce que je dis souvent, les monstres disparaissent quand on allume la lumière. Donc il faut qu'ensemble, on allume la lumière sur tout ça. Et vous verrez que ce n'est pas des monstres. C'est des pères, c'est des oncles, c'est des grands-pères.
Aujourd'hui, c'est un sujet bien difficile que nous allons aborder, mais il semble nécessaire, impératif, de briser le silence autour des violences sexuelles subies par un nombre alarmant d'enfants. Parents, nous sommes conscients qu'en élevant nos petits, notre rôle consiste aussi à prévenir, protéger, mettre des mots sur l'indicible. Alerter nos enfants qu'il ne faut jamais accepter les bonbons du monsieur à la sortie de l'école, ni encore moins le suivre, ne suffit malheureusement pas. Trop d'enfants sont victimes de violences sexuelles au sein de leur propre sphère familiale. Parler d'inceste ne peut plus être tabou car le foyer, ce lieu censé sécuriser l'enfant, ne l'est pas forcément pour tous. Comment aborder cela avec nos enfants sans les effrayer? Comment rester lucide sans virer parano? Comment leur apprendre à se protéger et les protéger? Nous allons laisser la parole sur ce podcast à Johanna Smith, psychologue, psychothérapeute et enseignante spécialisée dans la prise en charge des adultes victimes de traumatismes. Elle est l'autrice du livre « Protéger son enfant des violences sexuelles ». Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Parents, Galère sa mère. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Alors Johanna, comment définir l'inceste? Qui agresse qui? Parce qu'on a tous le cliché du père, mais est-ce qu'il y a aussi les oncles, les cousins? Est-ce que même les mères, les grands-mères? Et avez-vous des chiffres?
Effectivement, l'inceste est commis par le père ou le beau-père le plus souvent. Ce sont les premiers, on va dire, statistiquement, à être les agresseurs au sein de la famille, avec un profil qui est un petit peu particulier, puisqu'ils intriquent, entre guillemets, leur violence avec une certaine forme de contrôle et de domination à l'égard de la victime, dans ce rôle, entre guillemets, paternel. Donc, ils sont hyper contrôlants, et les violences sexuelles correspondent généralement à une façon de contrôler, de dominer la petite fille, la jeune fille, selon les âges, et souvent la victime est effectivement une fille. D'une façon générale, les filles sont évidemment statistiquement plus à risque que les garçons, quel que soit le lieu, mais plus particulièrement, encore plus, en famille. Donc, quand il y a de l'inceste, la victime est le plus souvent une fille. Néanmoins, il y a d'autres configurations, par exemple l'inceste par un oncle ou par un cousin ou par un frère, où là, les garçons sont aussi quand même assez à risque. Donc, on a, en fonction de l'identité de l'agresseur, du lien qu'il a avec la victime, des agresseurs comme le père et le beau-père qui vont surtout s'en prendre à des filles, et puis des autres agresseurs dans la famille qui vont s'en prendre à des filles ou à des garçons. Vous avez évoqué le fait que des femmes puissent être agresseuses sexuelles, c'est tout à fait vrai. On a en gros 95% des violences sexuelles d'une façon générale qui sont commises par les hommes et donc 5% par les femmes. Mais les femmes commettent 20% des violences sexuelles sur les enfants les plus jeunes, hein, c'est-à-dire sur les enfants de moins de 12 ans. Donc, on a quand même une proportion importante de violences sexuelles qui va être commise par les femmes quand on a un enfant d'âge un petit peu plus jeune. Et c'est assez logique puisque ces enfants sont davantage confrontés à des femmes dans leur vie quotidienne, alors que quand on grandit, on a un environnement un petit peu plus varié, on sort de la famille, on a des activités extrascolaires, etc.
Et cela touche l'inceste plus les enfants de quel âge? Est-ce que vous avez des statistiques également?
Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on est jeune, plus il y a de risques dans la famille, puisque assez logiquement, en fait, c'est surtout la famille qu'on fréquente. Mmh. Donc, le risque essentiel au sein de la famille, il est à l'âge, on va dire, scolaire équivalent de l'élémentaire, donc entre 6 et 10 ans. On a à peu près 12% ou 13% des victimes de violences sexuelles au sein de la famille qui le sont avant 5 ans. Donc c'est quand même, ça existe, même si ça paraît impensable. Oui. Et c'est douloureux, évidemment, de penser à des si petits. C'est quand même des phénomènes qui existent, donc il faut avoir en tête ce risque-là. Mais le risque commence à être beaucoup plus important entre 6 et 10 ans et entre 11 et 14 ans. Entre 6 et 10 ans, on est à peu près à 42% et à peu près un tiers des victimes dans la famille le seront à l'adolescence. Et puis un petit peu moins sur la dernière partie de l'adolescence de 15 à 17 ans. Donc dans la famille, on est surtout à risque entre 6 et 14 ans. Grosso modo, là où, quand on commence à passer le seuil de l'adolescence, on va avoir des risques également à l'extérieur, du fait de la plus grande fréquentation de l'extérieur, tout simplement. Et puis du fait des circonstances de harcèlement de rue et aussi des violences sexuelles au sein des relations de couple.
On a le sentiment que le tabou se lève enfin sur ce sujet. Pourquoi ça a pris autant de temps? Est-ce que l'inceste est resté plus longtemps, j'ai envie de dire entre guillemets, acceptable que le viol dans les mentalités?
J'ai l'impression que le tabou se lève un peu surtout en même temps, oui, avec la famille agrandée, avec le témoignage de Vanessa Springora, avec plus récemment celui de Judith Godrèche. On a un petit peu tous les registres, tous les âges, tous les lieux. On a aussi MeToo Garçon qui commence à prendre de l'ampleur. Oui. Je pense aussi qu'on a enfin compris que toutes les violences, que ce soit envers les femmes et envers les enfants, se rejoignent et sont sous-tendues par un problème commun, hein, qui est la problématique de la domination et notamment du sexisme, et qu'on pourrait ne pas voir le lien entre les maltraitances envers des enfants et le sexisme, mais en fait, toute l'atmosphère culturelle de domination et de contrôle ou de soumission dans laquelle on baigne sont des facteurs de risque qui ont été, pour le coup, bien mis en évidence au niveau de la recherche. Oui. Donc je pense qu'à partir du moment où les luttes de libération de la femme évoluent, elles ont petit à petit permis une évolution aussi des droits de l'enfant, avec, c'est quand même seulement en 2019 hein, que les fessées, par exemple, ont été interdites à l'encontre des enfants en France, donc c'est quand même très très récent. Oui. Mais en fait, tous ces mouvements évoluent ensemble. Avec aussi, finalement, dans l'entreprise, on a plus droit à la parole, on s'attend moins, comme par exemple si dans les années 50 ou 60, on avait un chef d'entreprise qui était le pater familias, d'une certaine façon, dans laquelle on allait faire toute sa carrière. On n'a plus du tout cette dynamique-là. Et donc, ce à quoi on s'attend dans notre environnement, dans notre vie d'adulte, c'est-à-dire à être entendu par nos propres hiérarchies et à pouvoir s'y opposer. Ça gagne petit à petit la hiérarchie familiale et le droit à la parole et à être pris en compte, notamment de l'enfant.
Est-ce que la culpabilité, l'emprise des victimes d'inceste est plus grande que celle des victimes de violences sexuelles en dehors de la famille ?
Alors, c'est difficile à dire puisque j'ai envie de dire que chaque destin est un peu différent et les réactions psychotraumatiques vont être très subjectives et dépendre du terrain dans lequel elles arrivent, c'est-à-dire de ce qui a été vécu avant, de l'ambiance dans laquelle on est, de la réaction des proches, de toutes sortes de choses de cet ordre-là. Mais effectivement, globalement, on peut quand même bien imaginer que l'inceste implique des conflits de loyauté et une complexité familiale statistiquement plus grande et avec des défis beaucoup plus complexe à relever pour la victime parce que il y a un risque d'effondrement familial, il y a un risque tout simplement, si je pense à certains de mes patients, de mise en danger financière de la famille parce que le père est incarcéré et que la mère ne travaille pas, donc la famille est vraiment dans une grande difficulté suite aux révélations. Et ça fait porter le sentiment de culpabilité à la victime de façon très injuste. Elle est convaincue que si elle parle, les choses vont se dégrader, et c'est parfois vrai, mais que du coup, c'est sa faute. Alors que, en fait, c'est l'agresseur qui l'a mise dans une position insortable, qui l'a mise dans une position vraiment où il n'y a pas de bonne solution, il n'y a que des mauvaises solutions. Se taire est une mauvaise solution, parler est une mauvaise solution.
Vous avez écrit donc ce livre, Protéger son enfant des violences sexuelles. C'est pas simple d'en parler à ses enfants en anticipation ou juste en tous les cas pour évoquer le sujet. Est-ce qu'en parler, c'est pas effrayer ses enfants? Parce que je le disais, la famille, c'est le lieu de sécurité par excellence dans la tête d'un enfant. Comment est-ce qu'on peut en parler sans traumatiser?
Alors effectivement, je pense que c'est important d'en parler. Pour ne pas traumatiser, il faut s'y prendre progressivement, comme pour tout, finalement, comme toutes les choses difficiles dont il va falloir qu'on parle à l'enfant dans la vie d'une façon générale. Il y a des alertes attentats, des entraînements qui sont faits à l'école. Qu'est-ce qu'on dit à cette occasion-là? Enfin, comment on va dire des choses différemment en maternelle et à l'élémentaire, au collège, par exemple? Donc, c'est exactement la même dynamique. Mais je voudrais pas qu'on occulte le fait que ce qui compte surtout, à mon sens, ce que l'enfant va surtout retenir, c'est l'expérience qu'il fait plus que ce qu'on lui dit. Donc, si on lui dit, c'est important de dire non. C'est important de dire non quand t'es pas d'accord, par exemple, y compris à quelqu'un qui voudrait te toucher sur les parties intimes, là où il y a les maillots de bain, etc. Mais que dans la vie quotidienne, on ne respecte pas autant que possible le nom de l'enfant. En fait, l'enfant, il va surtout retenir ce qu'il expérimente et pas tellement ce qu'on lui dit. Donc, c'est important d'en parler en respectant le rythme de l'enfant. Mmh. Mais je crois que ça n'a pas de sens d'en parler si, par ailleurs, on lui fait faire une expérience qui est un peu à l'inverse de ce qu'on lui dit et ce qu'on lui demande de faire en cas de situation délicate.
Mais comment on protège son enfant de ces violences? Comment on apprend à son enfant à se protéger?
Alors, je pense qu'il y a différents niveaux. Actuellement, on est beaucoup dans ton corps, c'est ton corps t'appartient. Ouais. En gros, il faut dire non. Ce qui est hyper lourd pour l'enfant. Ce qui est même un peu injuste parce qu'on lui fait quand même porter une responsabilité qui est très lourde, qui peut impliquer, si j'ai été agressée, c'est que j'y suis pas arrivée. Je suis coupable ou je suis nulle. Enfin, c'est quand même vraiment très lourd. Alors qu'en fait, de mon point de vue, et c'est vraiment l'objet de ce livre et de ce podcast que j'ai réalisé, c'était pour sensibiliser au fait qu'ayant travaillé 15 ans avec des auteurs de violences sexuelles, il y a des choses que les parents peuvent voir, qui peuvent mettre en place. Les violences sexuelles en l'encontre des mineurs ne sont associées à de la violence physique surajoutée que dans 1% des cas.
Oui, c'est très peu.
Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agresseur, dans 99% des cas, manipule l'enfant.
Oui.
Donc comment est-ce qu'on apprend un enfant à détecter quelqu'un qui tente de le manipuler, tente de l'accrocher d'une façon qui n'est pas claire? Comment est-ce que nous, on peut détecter des comportements qui sont pas clair. Comment est-ce qu'on peut... Parce que souvent, les parents les ont détectés, mais ne savent pas les décoder de cette façon-là. Oui. Donc, ils tiquent. Ils disent, tiens, quand même, il s'occupe beaucoup de mon enfant. Oui. Il fait des cadeaux que à mon enfant. Il se focalise beaucoup sur mon enfant dans que ce soit des soirées, des fêtes, des réunions familiales, peu importe. Et s'ils n'ont pas l'info que ça, c'est pas un comportement tout à fait, logique et que c'est un petit peu inquiétant, ils peuvent juste tiquer. Ils ont eu, leur détecteur interne a effectivement détecté quelque chose de pertinent, d'important, mais sans pouvoir le décoder, savoir qu'est-ce que ça signifie exactement. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses qui peuvent nous faire tiquer, des choses qui peuvent nous rendre inconfortables. J'ai des patients qui ont été victimes de violences sexuelles qui m'ont dit, mais cette personne-là, pendant longtemps, j'étais pas à l'aise avec, bien avant que les faits surviennent.
Oui.
Je me sentais pas tranquille, je l'évitais, je partais quand il arrivait, et mes parents me forçaient à lui dire bonjour, à lui faire la bise, ce genre de choses. Donc, écoutez-vous, écoutez vos sensations, écoutez celles de votre enfant, et quand votre enfant est pas à l'aise avec quelqu'un, posez-lui des questions. Ah oui, tiens, ah bon, tu...
Qu'est-ce qui t'a mis mal à l'aise?
Il y a Antoine qui vient ce soir pour la soirée avec les amis. Oh non, pas Antoine, j'ai envie de le voir. Ou quelque chose, même parfois l'enfant glisse, quelque chose de très, très discret. Mmh. Ah oui, t'aimes pas Antoine? Pourquoi t'aimes pas Antoine? De juste, en fait, écoutez, puis c'est peut-être juste, je trouve qu'ils sont pas bons. Bon, ok, peut-être que ça va être autre chose. Ah, je sais pas, il me chatouille tout le temps.
Ouais,
Ah, ok, ça c'est hyper intéressant. Parce que concrètement, Antoine arrive le soir, il commence à chatouiller l'enfant, c'est là qu'il faut intervenir. Et qu'Antoine soit un agresseur ou non, pourquoi? Premier scénario, Antoine n'est pas un agresseur potentiel. Je suis quand même en train d'apprendre à mon enfant que ses limites corporelles méritent d'être respectées. Et que c'est ça qui doit l'emporter sur l'envie d'Antoine de lui faire des chatouilles. Deuxième scénario, Antoine est un agresseur potentiel. Le message qu'il reçoit, c'est « Oula, je protège le corps de mon enfant. Je veille au grain. c'est dissuasif.
Oui.
Et ça, c'est le travail avec les agresseurs qui me l'a appris. Où, clairement, une fois qu'ils ont un peu cheminé dans leur travail thérapeutique, où ils peuvent regarder les choses avec un petit peu de lucidité, ils vont dire, effectivement, je n'ai pas agressé les enfants par hasard, entre guillemets. Non pas qu'il n'y a personne qui soit complètement à l'abri, hein, évidemment, mais l'idée, c'est qu'ils profitaient de situations de vulnérabilité, d'enfants qui étaient peut-être un petit peu moins protégés, de parents qui étaient un petit peu moins vigilants, et ils ne procédaient pas brutalement. C'est-à-dire que cette mise en place de la manipulation et des stratégies d'approche, elles mettent du temps. Et ce temps-là, c'est un temps au cours duquel les parents peuvent identifier des signes précurseurs tels que, ben voilà, ils chatouillent mon enfant, ils continuent même si mon enfant dit non, et ils voient que moi, je ne réagis pas.
Oui.
Et ça, ça va lui donner l'information que bah, je ne fais pas très attention, je ne suis pas disponible, ou bien ce n'est pas important pour moi, ou je ne tiens pas vraiment à cœur, je n'ai pas en tête enfin, ces choses-là pour mon enfant. Bref, versus, au contraire, l'agresseur qui est confronté à un parent qui intervient et qui se dit, bah, là, c'est risqué.
Et vous le disiez de manière assez claire dans votre ouvrage, qu'il y a cette technique, si je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, de décrire le geste et d'expliquer que je ne veux pas de ce geste-là pour mon enfant. C'est pour vous, c'est-à-dire que je pose cette phrase et c'est un panneau stop, quoi, finalement.
Exactement. Parce qu'en fait, donc c'est la technique, j'ai appelé ça nommer cadrer. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de parents qui tiquent sur ce genre de situation. Antoine chatouille mon fils et je suis mal à l'aise et je sais que mon fils aime pas ça, mais je sais pas
quoi
faire de vague.
Ouais.
Ou Antoine est un peu sous poulet, j'ai pas envie de pourrir la soirée, ou je sais pas comment le dire. Et en fait, quand on regarde autour de nous, il y a beaucoup d'adultes qui ont de la difficulté à dire non, qui ont de la difficulté à exprimer leur colère sans disjoncter, enfin de façon, on va dire, socialement acceptable, qui manquent d'outils, en fait, pour s'affirmer et notamment pour défendre leur enfant. Et ça, c'est un vrai souci parce que l'enfant, lui, comment il apprend à se défendre ? Il apprend bien à se défendre, surtout en modélisant sur comment les adultes qui l'entourent, en particulier ses parents, se défendent, mais aussi le défendent. Mmh. C'est toujours pareil, c'est qu'on peut dire à l'enfant, mais il faut que tu dises non. Si nous, on n'est pas capable de dire non à Antoine dans ces circonstances-là, ben en fait, on lui a même pas donné la moitié du message à l'enfant. Ça, c'est un vrai souci, il faut qu'on lui apprenne comment on fait. Donc la technique nommée recadrée, elle vise à donner une approche toute simple, facile à acquérir, et qui ne fait pas de drame. C'est, Antoine, là, tu chatouilles mon fils, il dit non depuis tout à l'heure. J'aimerais que tu arrêtes.
Oui.
C'est pas méchant. Mmh. C'est pas sorcier.
On fait pas de vague, mais il le met recadré. Voilà.
Voilà, exactement. C'est pas, on n'en fait pas tout un roman. Et puis surtout, on passe à autre chose. Mmh. Bon, tiens, je vais te prendre ton manteau. Moi, ton manteau, je vais te l'accrocher dans la penderie. On passe à autre chose.
Oui.
Je ne suis pas en train de traiter Antoine d'agresseur sexuel. C'est ça qui arrête beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent « Ah, mais quand même, je ne suis pas sûre qu'il était mal intentionné. » Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Qu'il soit agresseur sexuel ou pas, en fait, le corps de mon enfant, je suis là pour l'aider à le protéger s'il n'arrive pas à dire non et à le faire respecter spontanément par lui-même.
Est-ce que si on a soi-même, en tant que parent, été victime, est-ce que vous pensez qu'il faut en parler à ses enfants, déjà à quel âge ? Et puis si oui, comment est-ce qu'on l'aborde ?
Alors je crois que la priorité, c'est d'en parler à l'autre parent, si on a la chance de ne pas être parent solo. Et si on est parent solo, d'en parler à d'autres adultes qui sont parents, d'autres adultes qui nous entourent, nos adultes ressources, de ne pas rester seul avec ça. Pourquoi ? Parce que quand on va en parler à notre enfant, parce que oui, je pense qu'il faut en parler à un moment donné à notre enfant, mais là aussi, il y a des façons progressives de le faire, on va en parler. Il faut qu'on soit prêt à en parler d'une façon qui ne sera pas traumatisante pour l'enfant. Si on est encore bouleversé, si on n'a pas l'habitude d'en parler, si on n'en a pas déjà parlé à certains proches,
on
va être un peu brut de décoffrage et l'enfant, ça peut être très effrayant pour lui. Et l'idée, c'est quand même de faire de cette expérience quelque part une ressource sur laquelle je peux m'appuyer pour parler de ce risque-là à mon enfant et non pas un endroit où mon enfant va être mon petit thérapeute parce que je suis bouleversée, évidemment.
Bien sûr.
Donc l'idée, c'est qu'est-ce que je peux dire à mon enfant au fur et à mesure qu'il grandit ? Mettons l'inceste par le père. Bah oui, c'est vrai qu'on ne voit pas papy, l'enfant a 5 ans, 4 ans, 3 ans. On ne voit pas papy parce que maman et papy sont très fâchés.
Mmh.
Ou parce que maman est très fâchée contre papy. Et ça, c'est des choses, ça suffit en fait à répondre, parce que c'est ça qui fait qu'il faut en parler. Il faut répondre à ce que l'enfant a perçu, qu'il y a quelque chose d'inhabituel. Maman n'est pas bien quand on parle de papy, maman refuse qu'on voit papy, par exemple. Enfin, il perçoit ça. Le secret, ça suinte. Donc, il ne faut pas se leurrer sur « j'en parle pas, donc il ne se rendra compte de rien ». Ça, c'est une grosse erreur. Ça, pour le coup, surtout s'il y a encore beaucoup d'émotions par rapport à ça, c'est extrêmement peu probable. Donc, l'idée, c'est de reconnaître la réalité. Ben oui, t'as raison, il y a un truc à cet endroit-là. Et on peut très bien dire, je t'en dirai plus quand tu seras plus grand. Oui. Mais c'est même pas nécessaire, généralement, juste d'avoir dit, bah, effectivement, maman est fâchée contre papy, parce qu'il y a eu des choses difficiles qui se sont passées et que je lui en veux encore beaucoup. Un enfant de 3, 4, 5 ans, ça suffit, en fait. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand il va grandir, cette question-là, elle va certainement revenir dans la conversation à un moment donné. Pourquoi t'es fâchée contre papy, au fait? Bah, tu sais, papy, quand j'étais petite, en tant que papa, ça t'a pas été un très bon papa. Et parfois, il a fait des choses qui étaient violentes. Alors, je veux pas qu'il vous voie parce que je trouve que c'est pas un bon, ça a pas été un bon papa et je pense que ce serait pas un bon papy. Donc, sans rentrer dans des détails sordides, crus, qui seraient choquants pour l'enfant, on peut commencer à esquisser certaines choses. Et puis, sous l'essence, il y a des choses un petit peu plus explicites qui peuvent se dire, mais toujours en étant à l'écoute des questions de l'enfant, bien évidemment.
Et si c'est une personne plus éloignée dans la famille, bon, si c'est une grand-mère, une tante, une cousine qui l'a vécu, est-ce qu'il faut le raconter aussi à nos enfants pour, je sais pas, pour briser une espèce de chaîne de transmission? Est-ce que c'est important?
Oui, je pense que ça fait partie de l'histoire familiale, ça fait partie assez naturellement de ce qui va venir dans la conversation à un moment donné si les émotions sont relativement digérées. Le secret, généralement, il est sous-tendu par des émotions qui sont encore très bouleversantes et la difficulté de parler. C'est pour ça que je pense que d'en parler avec d'autres adultes de confiance, des adultes ressources, le ou la conjointe, le conjoint ou la conjointe, c'est vraiment un travail préalable qui me semble assez incontournable pour bah, justement aussi pouvoir discuter de comment tu le sens, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise, comment on va le dire, et avoir préparé ça ensemble plutôt que ça sorte un peu tout seul un jour où bah, ça y est, l'enfant a mis le doigt dessus et puis j'ai été pris de court et puis voilà. Si c'est arrivé à une cousine, une tante, même un cousin, un oncle, un père, quelqu'un d'autre de la famille, c'est certainement quelque chose qui existe en fait dans la vie de la famille. C'est quelque chose qui va sous-tendre certains silences, peut-être certaines choses dont on ne parle pas ou certaines personnes qu'on ne voit plus. Enfin, donc à un moment donné, il va y avoir des occasions de parler de ça. Et d'avoir en tête que cette chose-là ne doit pas rester secrète fera qu'on sera probablement beaucoup plus attentif à ces occasions pour pouvoir les saisir.
Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue psycho si on décide de se taire? On décide de ne pas en parler, même pour soi-même, on décide de juste s'éloigner du membre agresseur et on refoule tout, on n'en parle absolument pas. Qu'est-ce qui peut se passer?
Généralement, qu'on n'en parle pas est lié au fait que les émotions ne sont pas digérées.
Ouais.
Donc, ce n'est pas tant le fait qu'on n'en parle pas, c'est la présence de ces émotions non digérées avec un non-dit que l'enfant perçoit, parce que l'enfant a quand même un cerveau beaucoup plus, du fait de l'immaturité du cerveau, son cerveau est beaucoup plus calé sur nos émotions et nos sensations corporelles que nous, les adultes. Donc, il ne faut pas sous-estimer sa capacité à percevoir nos états émotionnels, à percevoir nos tensions corporelles, notre corps quand on le prend dans les bras, quand on le prend sur les genoux, et que certains sujets viennent dans la conversation, par exemple, à percevoir notre voix, notre regard, enfin toutes sortes de choses que nous, les adultes, on perçoit généralement beaucoup moins. Je pense à un patient qui me disait systématiquement, quand il venait certains sujets à la télévision, ma mère zappait.
Oui.
Voilà, c'est tout simple, mais ça fait partie des façons dont il a perçu qu'il y avait quelque chose autour des violences, de la sexualité, des violences sexuelles, qui était un gros trou, en fait, dans lequel il fallait surtout pas tomber, et donc il fallait surtout pas aborder ce sujet-là. Dans le podcast « Ou peut-être une nuit », où l'autrice parle de son expérience de fille, d'une femme qui a vécu l'inceste, elle en discute dans un épisode avec sa sœur, et elle se rend compte que toutes les deux, quand elles regardent un film, elles ont une espèce d'expectative anxieuse qui est une scène d'inceste. C'est quand même très troublant.
Eh oui.
Alors que cette mère, et c'est arrivé bien avant que la mère ne leur révèle finalement les faits beaucoup plus tard à l'âge adulte. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est une espèce grégaire, nous les humains. Et quand on a appris une peur, ce qui va être efficace pour protéger tout le groupe, c'est justement cet aspect très communicatif de notre système nerveux. Quand quelqu'un est tendu, quand quelqu'un est crispé dans un groupe, ça va avoir tendance à être communicatif, et encore plus avec les enfants qui sont en train de forger leur représentation de ce qui est dangereux ou pas, leur sensation de ce qui est dangereux ou pas. Donc, ils sont très sensibles à nos perceptions de danger, à nos sensations de peur, et parfois même alors que nous-mêmes, on les a pas forcément perçues dans notre propre corps. Donc, ils vont percevoir que certaines choses déclenchent leur mère ou leur père, par exemple, déclenche un état émotionnel inhabituel, généralement de peur, parfois de rage, parfois de colère, sans pouvoir comprendre à quoi c'est lié. Et ça, c'est très inquiétant pour un enfant. Et donc, ils vont grappiller des choses dans l'environnement à
pour
tort
essayer
ou à
de
raison,
comprendre.
hein, de,
Oui.
voilà, pour essayer de comprendre, pour essayer de savoir à quoi est associée cette peur. Et petit à petit, construire leur propre représentation. C'est plus simple si les choses sont claires.
On va essayer de parler rapidement, même s'il faudrait beaucoup de temps, de l'aspect juridique. On a lu hier que l'Assemblée nationale avait accueilli l'appel de 500 mères qui dénoncent le déni de la justice face aux violences sexuelles faites aux enfants. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on dépose plainte pour inceste? Il y a un temps de latence qui est énorme, et d'ailleurs comment on le gère en famille, surtout si, si vous le disiez, s'il s'agit du père des enfants. En gros, comment ça se passe tout ça?
On va avoir deux cas de figure. On a l'inceste qui est encore en cours, on va dire, enfin tout récemment, qui vient d'être dévoilé alors qu'il était en cours. Et puis l'inceste qui est dévoilé des années après. Dans le premier cas, et dans le cas que vous évoquez, il s'agit de mères qui entendent la révélation de leur enfant
oui.
et qui la prennent au sérieux, ce qui n'est pas toujours le cas. Quand même le préciser.
Ouais, ouais.
Il y a un certain nombre de personnes de l'entourage qui ne vont pas entendre, ne vont pas attraper les perches qui leur sont tendues, hein, parce que souvent mes patients victimes me disent « mais j'ai essayé de dire, j'ai lancé des choses à ma mère comme de toute façon tous les hommes c'est des salauds ». Bon ben, pourquoi tu dis ça ? Et cette mère ne relevant jamais ce genre de remarques. Donc il y a des environnements qui vont être plus à l'écoute que d'autres. Quand, heureusement pour la victime, l'environnement est à l'écoute, si tout va bien, normalement il y a une démarche en justice pour protéger l'enfant, évidemment, et puis pour clarifier la situation. Je déconseille très fortement ce que font certaines familles, à savoir un conseil de famille. Se dire, bon, on garde ça entre nous, on ne va pas fragiliser la situation familiale.
Mais tout à plat ensemble.
Généralement, ce n'est pas très invasif, en fait, pour l'agresseur. Au contraire, l'agresseur voit que même si on le sait, finalement, on ne le dénonce pas. Bon, clairement, la survie du groupe famille est prioritaire sur le bien-être de là ou des victimes. Donc, c'est quand même un peu un feu vert qu'on lui donne, hein, si je peux dire ça comme ça. Mais effectivement, il faut être bien outillé, bien soutenu. Moi, j'invite ces personnes à se rapprocher très rapidement d'une association d'aide aux victimes, et en particulier aux victimes d'inceste, pour avoir des informations, pour savoir ce qui les attend, pour vraiment faire leur maximum. Parce que, notamment dans le cas des situations des pères et des beaux-pères incestueux, il faut savoir qu'on a un profil d'agresseur quand même assez particulier par rapport aux autres agresseurs de mineurs. Au niveau psychologique, ce sont souvent des hommes très rigides, un peu parano, qui vont avoir tendance à nier les faits très longtemps, là où d'autres, la plupart des agresseurs en fait nient quand on les accuse, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau de la vie privée ou peu importe, ils vont dire non, soit non, j'ai pas fait ça, soit non, c'est pas moi, soit je l'ai touché mais c'était pas c'est... Enfin, ils vont nier au moins une partie des faits.
Ouais.
Et puis souvent après, en fait, ça lâche. Une fois devant la police, la justice, souvent là, ils vont reconnaître davantage de choses et donc la procédure va pouvoir aboutir plus facilement. Dans le cas de l'inceste, on a des hommes qui, du fait de ce côté un petit peu rigide et parano, ou au contraire, retourner l'agressivité à l'égard, à l'encontre de la victime et généralement de la mère, avec des contre-procédures, avec des théories parfois très convaincantes sur la découverte que je la trompais, donc elle veut se venger, trouver des raisons qui peuvent paraître très convaincantes, et c'est ça qui est vraiment difficile, pour justifier pourquoi cette mère ferait de fausses allégations, en fait. Là, effectivement, la procédure peut être extrêmement longue et surtout très douloureuse. Et malheureusement, la justice en France, pour l'instant, j'espère que ça va progresser grâce aux dernières mesures en date, ne protège suffisamment et suffisamment vite la victime et le parent protecteur, qui est généralement la mère, pas toujours, mais généralement. Et puis ensuite, on a le deuxième cas de figure avec des victimes qui portent plainte des années après
des
les
années
faits,
plus tard.
Avec les mêmes... d'avoir en face quelqu'un qui contre-attaque, mais qui en plus sait très bien que généralement il n'y a aucune preuve, donc c'est sa parole contre celle de la victime. Et donc là, évidemment, il y a des forts risques que ça débouche sur un non-lieu, par exemple, parce que en fait, c'est une parole contre l'autre et on n'a rien d'autre pour alimenter le dossier. Ça, ça peut être assez dramatique.
Pour terminer, Johanna, j'aimerais que vous puissiez dire aux personnes qui nous écoutent quoi faire si elles ont un doute sur un membre de leur famille, qu'elles constatent une violence, comment est-ce qu'elles peuvent procéder, à qui elles doivent s'adresser, si elles ont des questions ou des doutes sur ce sujet.
Alors d'abord, ne jamais rester seule. Si on a des doutes, il faut être soutenu et ne pas chercher à faire l'enquête soi-même. Et en particulier, ne pas chercher à interroger l'enfant soi-même. Parce que ça peut vraiment être une source de faux témoignages ensuite. C'est-à-dire que l'enfant peut avoir été victime, mais les questions qui lui ont été posées, qui sont trop précises ou trop pressantes, brouiller son témoignage et le faire évaluer comme étant un faux témoignage. Ça, c'est quand même vraiment très, très problématique. Donc, on a D'accord. quelqu'un qui peut être très bien intentionné, qui cherche à protéger l'enfant, mais qui ne sait pas comment s'y prendre. Mm-hmm. Donc, la première chose, c'est d'être entouré par des personnes qui ont l'habitude de ce genre de situation. C'est-à-dire, appeler le 119, appeler une association d'aide aux victimes et faire ça rapidement, pas rester seul longtemps avec ça. Et puis, si... Donc, là, on est dans une situation où... Il y a une suspicion. Tenir un fichier, un carnet, enfin quelque chose qu'on peut retrouver facilement avec la liste des faits, ce qu'on a entendu, ce qui nous met la puce à l'oreille, ce qui fait qu'on a des doutes. Parce que souvent, on pense qu'on va s'en souvenir et puis après, quand il s'agit de témoigner, tout se mélange un petit peu. Donc, si on veut être considéré le plus fiable, le plus solide possible dans notre témoignage, ça vaut vraiment la peine de noter les choses. Donc, telle date, voilà ce que l'enfant m'a dit. Et d'essayer de noter très rapidement pour avoir textuellement ce qu'il nous a dit et pas une phrase qui serait transformée par notre mémoire parce qu'on note une heure après. Ça a l'air idiot, hein, mais c'est vraiment capital. Et puis, de faire cette liste-là, la garder précieusement, par-devers soi, éventuellement faire une copie sur Internet, peu importe, et ensuite d'aller se rapprocher rapidement de professionnels qui ont l'habitude.
Très bien, bah écoutez, merci Johanna d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet qui n'est pas simple mais qui méritait qu'on prenne notre temps pour pouvoir l'aborder. Je rappelle le titre de votre livre, Protéger son enfant des violences sexuelles, que vous retrouverez dans les liens de ce podcast. Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir invité.
Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas notre podcast Galère sa mère, vous le retrouvez tous les premiers samedis du mois. Je suis Dorothée Saada, je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboisise. À très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.